cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour, Sir John Eliot Gardiner.
Bonjour.
Alors, on va peut-être pas passer en revue votre carrière, on va tout de suite aller à l'actualité directement, tellement ça serait, je pense, dense et ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, une actualité, on pourrait dire que les années passent et vous avez toujours une actualité d'une densité incroyable. En ce moment, donc, sort la symphonie numéro 4 de Brahms, poursuivez donc avec Brahms. En même temps, il y a, à la fin de l'année, vous allez boucler une décennie de cantates de Bach qui vous ont suivi pendant toute cette décennie, donc la fin de cette intégrale, et également donc les 400 bougies des Vêpres de Monteverdi que vous dirigez en ce moment. Il y a à Versailles, vous allez à Londres, vous avez encore une tournée européenne. Alors c'est une œuvre un peu particulière pour vous qui vous a suivi presque même de votre naissance musicale même. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu cette œuvre ?
Absolument. À l'âge de 11 ans, j'ai entendu une émission à la radio, à la BBC, avec notre petite radio, avec... Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est une émission en direct de la cathédrale de York, dans le nord d'Angleterre, des Vêpres de Monteverdi, dirigée par Walter Gurr, avec... le London Symphony Orchestra et une grande chorale. Alors, interprété comme un grand oratorio. Et les gens dans le monde soi-disant authentique aujourd'hui, sûrement, ils vont être horrifiés, scandalisés par cette interprétation. Mais pour moi, c'était extraordinaire. Pour moi, c'était une sorte de breakthrough, alors une déclenche, parce que tout d'un coup, j'ai découvert une musique d'une intensité, d'une passion, d'une
richesse.
Oui, richesse que j'ai jamais entendue dans la musique à ce moment-là dans ma vie. À la maison familiale, nous avons chanté beaucoup de musique a cappella. J'ai joué mon violon aussi. J'ai assisté à des opéras de Mozart aussi. J'ai entendu sur disque Beethoven, Brahms, etc. Mais Monteverdi, c'était quelque chose complètement inouï, tellement moderne.
Comment justement une œuvre aussi importante pour vous par rapport à vos choix peut-être musicaux, esthétiques, professionnels, vit avec vous, c'est-à-dire vous suit, vous l'avez dirigé, etc., vous continuez encore aujourd'hui. Comment une œuvre comme ça vit avec soi, la façon dont on la perçoit, la façon dont elle évolue, c'est fait partie comme un être humain, comme quelqu'un de votre famille un peu.
Peut-être, mais je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais simplement que c'était devenu une sorte d'obsession.
Et ça l'est toujours ?
Oui. Les Vêpres de Monteverdi ?
L'obsession, le mot obsession.
Oui, dans le sens que si je ne dirige pas les Vêpres de Monteverdi, au moins une fois chaque décennie, il me manque quelque chose, ça c'est sûr. Donc, j'ai choisi cette œuvre pour ma toute première concert à Cambridge, le 5 mars 1964. J'ai fondé le chœur pour cette performance, c'était le Monteverdi Choir, et pour moi c'était une sorte d'épiphanie. Après ce concert, tout était bouclé, c'était sûr pour moi, pour la première fois que je dois étudier la musique classique sérieusement. En quittant Cambridge, mes études en histoire et en arabe classique, j'ai passé en musique, en musicologie, d'abord à Londres avec Thurston Dart, et ensuite ici à Paris, 2 ans avec Nadia Boulanger.
Nadia Boulanger.
Ouais.
Qu'est-ce que vous gardez de cette rencontre avec Nadia Boulanger, la charismatique Nadia Boulanger?
La terreur, la peur. Chaque leçon avec elle, c'était une pénitence, souvent.
Ouais.
Oui, parce qu'elle était tellement exigeante avec tous ses élèves, vraiment exigeante.
C'est l'exigence que vous conservez avec le recul aujourd'hui, si vous deviez garder quelque chose qui a vraiment eu un.
Mais j'ai une affection profonde pour elle. Mais elle était impressionnante, d'abord comme personnalité, mais surtout comme musicienne. Une oreille fastidieuse, une qualité d'écoute exceptionnelle. Elle a postulé pour tous ses élèves je sais pas, des critères, qu'est-ce que c'est d'être un musicien? Le choix d'être un musicien professionnel, qu'est-ce que ça représente? Et pour nous, à l'âge de 22 ans, 23 ans, c'était un choc, tout d'un coup, d'être confronté par des questions tellement profondes et sévères.
Est-ce que vous avez eu des doutes parfois par rapport justement à ces
Non.
exigences ou des peurs tout simplement?
Non, des peurs et de sens d'insuffisance. Est-ce qu'on peut vraiment, vraiment gagner, atteindre le niveau qu'elle a postulé pour nous? Et le fait qu'il y avait toujours cette commentaire parfois un peu dur en disant: mais mon pauvre petit, vous trompez dans un petit exercice que moi j'ai fait à l'âge de 6 ans, des choses comme ça. Et des réflexions comme: votre harmonie, c'est une tragédie sans nom.
Ça marque, ça reste.
Ça marque, ça m'a beaucoup marqué.
Puisqu'on restons dans ces années-là, en 64, donc quand vous avez fondé le chœur, la direction dirigée, c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis toujours, ou c'est
Non.
venu finalement par accident, naturellement, ça a été un appel, comment ça s'est concrétisé, et pourquoi finalement?
Peut-être par frustration de chanter dans des chœurs dirigés par des gens que je trouvais pas à l'auteur. Et donc l'arrogance de l'adolescence, de dire: ah, moi je peux faire ça, peut-être mieux. C'était pas forcément vrai, mais il faut quand même commencer quelque part. Et heureusement, la réaction des chanteurs était positive, plutôt positive envers moi. Même à Cambridge, dans une université où il y avait beaucoup je sais pas, d'arrogance aussi et de parti pris. Et le fait que j'ai essayé d'interpréter une œuvre comme Les Vêpres de Monteverdi tellement inhabituel au chanteur, pas connu du tout.
Ce que j'allais dire, est-ce que justement cette œuvre si particulière, si passionnée pour l'époque, pour des chanteurs anglais, polite, etc., sur tout ce côté-là, il y avait une sorte de choc, de clash des cultures ?
Total clash de cultures. Et le challenge pour moi, c'est d'essayer de faire sortir de cette polite choir quelque chose vraiment dramatique et passionné et intense. Et bien coloré, dans le sens que l'imitation de toutes les couleurs de la langue italienne, ça c'était le grand challenge.
Toujours dans ce début, dans ce rapport que vous avez avec la voix, avec les chœurs, le chant, la voix humaine, cet instrument que vous, a toujours été en vous. Je crois que dans votre famille, on chantait, vous avez toujours finalement chanté, on pourrait dire. Il n'y a pas vraiment eu de déclic tout à coup. C'est quelque chose, enfin, ça fait tellement partie de vous finalement qu'il n'y a jamais eu vraiment de tiens, je vais, enfin, c'est en vous cette.
Oui, grâce à mes parents, j'ai commencé à chanter très très tôt et ça m'a resté, même quand j'ai appris le violon et après plus tard l'alto, le chant est resté pour moi l'essence de la musique classique, même si je dirige une œuvre symphonique de Berlioz ou de Brahms ou de Tchaïkovski. Ce qui m'attire dans cette musique abstraite, c'est d'abord la possibilité de s'exprimer comme en Monteverdi, toute la plénitude des émotions humaines. Et si un orchestre, la petite flûte ou un hautbois, une clarinette, un basson, un cor, un violon ne chantent pas sur leurs instruments, c'est fichu, c'est fini.
Comment vous voyez justement rétrospectivement, depuis on va dire début des années 60, l'évolution justement de toutes ces voix? On parle des voix very polite d'une époque, etc., la révolution baroque, tout ce qui s'est passé ensuite, tout ce que vous avez apporté, tout ce que d'autres ont apporté. Est-ce que vous voyez des évolutions particulières? Est-ce que c'est juste l'air du temps? Comment voyez-vous au niveau du paysage?
Alors, il y a des pour et des contre, mais c'est plutôt positif, je trouve. Les contre, c'est que ce que nous appelons en Angleterre « the early music movement », le mouvement de la musique préclassique, a une tendance de d'être trop soi-regardante, un peu clique, un peu marginal et trop sérieux dans les petits détails et trop pédagogique finalement. Les pour sont beaucoup plus importants. Les pour, c'est que tout d'un coup, depuis les années 60 et 70, tout ce répertoire était renouvelé immensément, avec une richesse extraordinaire de découvertes de la musique du Moyen-Âge, de la Renaissance baroque, etc. Et que l'ambiance et la curiosité des musiciens autodidactes a changé complètement l'ambiance des orchestres symphoniques. Qu'il y a peut-être aujourd'hui quand même quelques orchestres qui sont des dinosaures qui résistent toute contamination de cette nouvelle vague, si vous voulez. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Et ce que je trouve très positif, qu'il y a une sorte de plus de va-et-vient entre le monde le freelance monde des musiciens qui cachetonnent et qui sont spécialisés dans le monde de la musique ancienne et les musiciens employés dans les phalanges importantes de symphonique. Par exemple, maintenant que je dirige le London Symphony Orchestra très souvent, et depuis 4 ans, j'ai fait une série de concerts de toutes les symphonies de Beethoven avec eux. Au départ, j'étais très sceptique parce que je me suis dit pourquoi je dois faire ça avec un orchestre conventionnel, symphonique, le LSO, avec leurs préjugés, avec leur parti pris, etc. Mais c'est eux qui étaient demandeurs, c'est eux qui sont venus me chercher Parce que pendant 10 ans, j'ai fait la musique fin 19e, début 20e. J'ai beaucoup de Stravinsky, Prokofiev, Elgar, Shostakovich, etc. Ils ont dit non, faites de Beethoven, faites travailler, apportez à nous votre expérience sur des instruments de l'époque. Et au début, il y avait une partie qui était en révolte, une autre partie qui était sceptique, mais finalement, après 2-3 essais, ils étaient très ouverts à chaque nouvelle impulsion, jusqu'à un certain point que maintenant, il n'y a pas de... Le terrain est déjà gagné. Ils viennent avec leur virtuosité, leur patte sonore, leur couleur, leur... musicalité. Moi, je viens avec mes idées et on crée
une... Ce que j'allais vous demander, l'échange a l'air quand même vraiment présent.
C'est une... Absolument, c'est un échange. C'est une échange.
C'est vital pour vous, avec la carrière que vous avez eue, qui est toujours justement cet échange.
Absolument, c'est gratifiant parce que c'est pas quelque chose figé, c'est pas quelque chose on dit « Ah, j'ai enregistré les symphonies de Beethoven, le terrain est gagné, alors maintenant on passe à autre chose. » Non. Si la musique de Beethoven a quelque chose à nous dire aujourd'hui, il faut réinventer à chaque fois avec des musiciens, avec une nouvelle impression, une nouvelle propulsion, une nouvelle idée. Et c'est ça qui est très gratifiant avec le LSO. Il y a quelque chose qui est complètement individuel au moment de l'exécution. Et c'est ça qui est important.
Comment vous choisissez les œuvres que vous avez envie d'enregistrer, les œuvres? Et qu'est-ce que représente d'ailleurs le disque? Vous avez fondé un label, le concept de l'enregistrement figé, pas le live, donc quelque chose qui reste, qu'on garde maintenant, même il y a la dématérialisation de la musique. Donc, mais qu'est-ce que représente pour vous l'enregistrement, le fait de garder
Ça a changé au fur et à mesure de ma carrière. Au début, c'était très important pour être connu de commencer à faire des enregistrements. Dans les années 70 et 80, c'était très important comme laboratoire de faire des expériences. C'était au moment où les grands magasins, les comme Deutsche Grammophon, comme Philips, comme Decca, comme Erato, comme EMI, il y avait suffisamment de moyens de vous inviter dans le studio ou de faire des lives, mais plutôt dans les studios, de faire des séances d'enregistrement, pas dans des conditions trop riches, mais quand même avec un certain temps où on peut expérimenter. Et pour nous, des musiciens de cette époque-là, c'était très important, essentiel pour notre développement. Depuis le collapse, le total chute aux enfers des grands phalanges, c'est autre chose. Avec mon petit label, Solideo Gloria, nous faisons pratiquement que des enregistrements live, avec un peu de patching, un peu de rattrapage après. Et ça change complètement. D'abord, le fait que c'est nous, et ce n'est pas une énorme entreprise, ça veut dire qu'il faut économiser énormément. Il faut que... on choisit que des œuvres où il y a vraiment quelque chose de très important, très, très nouveau à interpréter. Ou répertoire qui n'était pas souvent enregistré, des choses comme ça. Donc les critères sont beaucoup plus sévères. Mais les chances, les opportunités sont immenses. Le fait que par exemple, notre cycle des symphonies de Brahms, c'est moi qui ai décidé et choisi de mélanger les symphonies avec des œuvres chorales que Brahms lui-même a ou bien composées ou d'autres compositeurs qu'il a choisi, qu'il a transcrit lui-même, il a dirigé, comme une sorte de voix vers une symphonie de Brahms.
Mais est-ce que c'est une volonté pédagogique à la base par rapport au public?
Un peu pédagogique, mais pas.
Oui, c'est pas une leçon.
C'est pas une leçon, c'est simplement disant avant d'écouter cette symphonie, imaginez un tout petit peu qu'est-ce qui se passait dans l'imagination, la tête de Brahms, Qu'est-ce qu'il a dirigé? Quelles étaient ses préférences de la musique ancienne? Est-ce qu'il y a des rapports entre sa musique chorale et ses symphonies? Oui, c'est une sorte de contexte nouvel pour écouter les symphonies de Brahms. Et je pense que ça, pour moi, c'est l'épreuve que les symphonies de Brahms sont pratiquement des chansons sans chanteur. Ça veut dire que son moyen d'utiliser les différentes familles de l'orchestre, les petites harmonies, les cuivres, les cordes, c'est comme un Gabrieli ou un Schütz qui avait trois chœurs à sa disposition. Donc, ça rend cette musique beaucoup plus lumineuse, plus lisible, plus transparente, plus humaine que la tradition allemande, que je pense que c'est pas du tout authentique dans le sens que c'était comme ça que Brahms a voulu entendre sa musique. C'est beaucoup plus wagnérien que brahmsien.
Le monument des cantates, c'est quelque chose, l'idée a germé à quel moment en vous de vous lancer dans cette aventure qui va donc se terminer à la fin de l'année?
Vous savez, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je ne peux pas dire « Ah, c'était exactement en 1984 que j'ai décidé de faire ce pèlerinage ». Non, c'était quelque chose...
C'est quand même c'est pas un petit voyage, c'est pas on prend pas l'Eurostar, c'est vraiment une aventure
impressionnante, c'est une énorme aventure, mais c'est évolué organiquement, progressivement. Je pense que c'est peut-être par hasard que j'ai lu un jour dans mon CV je dois enregistrer toutes les cantates de Bach pour Deutsche Grammophon, et je dis ça, c'est intéressant. Personne m'a demandé de faire ça. Et finalement, Deutsche Grammophon sont venus avec un contrat. Et malheureusement, jusqu'avant notre pèlerinage, ils ont décidé de ne pas poursuivre ce projet. Et nous avons fait ça nous-mêmes. Et Deutsche Grammophon, ils ont enregistré que 4 disques. Mais pour moi, c'est une sorte de... challenge, un nouveau challenge, parce que oui, c'était pour célébrer le nouvel an, le nouvel siècle, 2000, Mais c'est aussi le 250e anniversaire de la mort de Bach. Mais beaucoup plus important que ça, c'était la chance d'approfondir une connaissance de ce répertoire qui reste, même après beaucoup d'années, un peu marginal. C'est pas comme les concerts de bande bourgeois, c'est pas comme les fugues pour orgue, c'est pas comme l'oratorio de Noël, les passions, les cantates, 200 cantates de Bach restent pour la plupart peu connues. Et le challenge pour moi, c'est d'évaluer chaque cantate. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de les faire revivre aujourd'hui?
Et j'imagine que même vous, ces questions, vous avez eu les réponses durant les décennies.
Exactement. Et la réponse était affirmative, mais à 100%. Que je ne dis pas que chaque cantate, c'est un chef-d'œuvre, mais il y a très très peu de cantates dans ces 200 qui sont... non, il n'y a pas qu'un seul qui est vraiment moyen. Et en comparaison avec les cantates de tous ces contemporains, Graupner, Telemann, Stölzel, c'est génial, c'est extraordinaire. Il y a toujours quelque chose de fascinant dans l'imagination de Johann Sebastian Bach. Le fait qu'il a trouvé à chaque fois des nouvelles liaisons entre des paroles et la musique, le contrepoint, l'harmonie, la mélodie, le rythmique, l'instrumentation, l'invention, c'est sans limite.
L'idée de mettre des photos de Steve McCurry sur toutes les pochettes qui pouvaient paraître peut-être un peu marketing, mais en fait qui finalement est assez intéressante, qui pas du tout, c'est quelque chose de justement que vous avez pu faire, que vous auriez peut-être pas pu faire dans d'autres contextes.
C'était pas du tout rien à voir avec marketing. Ouais. C'était ma femme et moi qui nous avons décidé. Alors comment transmettre au public le fait que cette musique, même si c'était écrit pour une communauté luthérienne, protestant, actuellement cette musique mérite un public beaucoup plus vaste, beaucoup plus mélangé, et que c'est une musique pour tout le monde.
Par rapport justement pour revenir sur cette crise du disque, le label, etc., comment vous voyez aujourd'hui justement la dématérialisation de la musique, les téléchargements, les gens qui finalement, des étudiants qui en deux clics de souris peuvent récupérer des tonnes et des tonnes de musique sur leur disque dur, mais c'est pas parce qu'ils l'ont qu'ils l'écoutent aussi, parfois, malheureusement. Est-ce que vous, quand vous avez, je ne sais pas, des jeunes musiciens avec vous, quand vous discutez, comment vous voyez l'évolution de tout ça? Est-ce que c'est un bien, c'est un mal, c'est... Il faut faire avec,
Il faut faire avec. Je pense que c'est pas tout à fait négatif, et c'est certainement pas tout à fait positif. Parce que si les musiciens... Si les auditeurs deviennent des voleurs... C'est pas bien du tout, mais que la musique soit plus accessible, ça c'est bien sûr positif, c'est excellent. Et je trouve que il faut rester souple et très attentif en même temps. Et l'essentiel, c'est qu'il y a un intérêt dans les jeunes gens pour cette musique, pour la musique polyphonique, pour la musique grégorienne, la musique baroque, la musique classique. Et que ça se transmet dans les orchestres des jeunes, dans les chœurs des jeunes, dans le public au concert. Par exemple, demain soir, je dirige les Vêpements du Verdi au Royal Albert Hall à Londres pour les proms. Et il y a déjà 6500 billets vendus. Et ça, c'est avant que les proms arrivent et avant qu'on compte le public qui vont regarder, écouter sur télévision, en direct et à la radio. Et ça, c'est très positif. On ne peut pas... J'ai pas songé à ça en 1964, quand j'ai dirigé les Vêpres pour la première fois. Alors, 46 ans après, c'est très, très positif et très gratifiant de voir le public pour cette musique. Immense, devenu immense et sans limite, je trouve.
On a l'impression que vous avez un côté très précurseur par rapport à l'aspect international, ouvert vers l'extérieur. Vous avez pourtant une culture britannique, mais je crois que votre mère chantait des chansons françaises. Vous avez été tout de suite passionné par la musique de Monteverdi, qui est à l'opposé peut-être de ce qu'on peut penser être la culture classique britannique. Vous avez étudié l'arabe, vous êtes... Toutes ces choses-là, vous êtes venu à Paris, vous avez étudié avec Nadia Boulanger. Cette ouverture, c'était quelque chose aussi que vous aviez en vous dès le début.
La curiosité. Et le fait que mes parents m'ont montré, par leurs exemples, que c'est quelque chose pas rarifié, la musique. C'est quelque chose qui est lié avec... les rituels de la maison, les saisons, la vie agricole, au fond. Et mon père, il n'était pas très content quand j'ai décidé d'être musicien par profession, par métier. Il a dit, mais non, tu vas te divorcer de tes racines, séparer. Mais heureusement, non, parce que aussi j'ai gardé toujours mon affection pour le monde de l'agriculture, pour la terre, et donc je suis éleveur de vaches et de moutons.
Je suis fermier.
Et parce que dans notre métier, comme musicien, comme chef d'orchestre, c'est pas toujours facile parce qu'on est toujours en déplacement. Je suis arrivé aujourd'hui avec les deux valises. Je prends la TGV cet après-midi pour revenir à Londres pour mon concert demain. Et on a besoin de quelque chose, une base solide dans sa vie. Et pour moi, ça, c'est la vie de campagne.
C'est vital pour vous, c'est l'oxygène, c'est vos racines qui sont...
C'est vital, c'est l'oxygène pour moi.
Et pour votre musique aussi, j'imagine.
Absolument.
Des envies futures d'œuvres à enregistrer, à jouer dans les années à venir, ou des répertoires auxquels vous n'auriez peut-être pas trop touché, que vous avez envie de... Mettre votre nez dedans un peu.
Oui, mais je ne vous dis pas, parce que c'est en évolution. Mais les portes sont toutes ouvertes.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression, avec l'immense carrière, avec les rencontres, avec les œuvres que vous avez jouées, vous n'avez jamais l'air blasé, on a l'impression que vous avez la même faim, vous avez la même faim, la même énergie, vous êtes dans une sorte de torrent, de stream.
J'espère fort bien, et j'ai toujours dans ma... mon imagination, non, dans le mémoire, la vie de Nadia Boulanger, qui dit avant de aborder une œuvre, il faut se poser toujours la question, avec quel droit, avec quelle permission vous avez d'interpréter cet ouvrage? Quelles sont vos qualifications? Quelles sont vos... qu'est-ce que vous avez à dire dans cette musique? Il faut se demander ces questions avant de commencer. Sinon, on est un cambrioleur.
Ces questions, vous les êtes posées par rapport à l'amour que vous avez, ce rapport que vous avez avec la musique française. Enfin, on pourrait dire même les musiques françaises, parce que pas de Chabrier à Rameau ou à Sauvignac.
Ah, je suis toujours gêné par le fait que les Français... vous, les Français, vous ignorez beaucoup de votre musique. Un peu moins aujourd'hui que quand j'étais jeune, mais j'ai un souvenir très exact. Quand j'ai fait mes études ici à Paris, j'ai cachetonné comme altiste au dernier pupitre de l'Orchestre Lamoureux, l'Orchestre Colonne, etc. Et on a fait tous les grands chefs-d'œuvre française, Espagne de Chabrier, la Symphonie Fantastique de Berlioz, la Damnation de Faust, Daphnis et Chloé de Ravel, la Mère de Debussy, avec une répétition, souvent avec des très mauvais chefs, mal interprétés, mal joués, et mal reçus par le public. Et pour moi, ça m'a...
ça m'a fait quelque chose.
Ça m'a frustré beaucoup, oui.
Bien, Sir Jean-Juliette Gardiner, merci beaucoup.
De rien.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.